France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Populisme, deuxième épisode, Italie, Amérique du Sud, les showrooms du populisme.
On pense parfois que les parasites, ce sont les mendiants dans les rues ou les prostituées sur les trottoirs. Eh bien non, ce qu'il faut vraiment dégager, ce sont nos parlementaires.
Je suis un Gaulois et comme les Gaulois, je ne crains rien d'autre que le ciel ne me tombe sur la tête.
Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien.
Le peuple a-t-il toujours raison? Si c'est pas lui, qui a toujours raison? Le vrai mot fourre-tout, c'est élite. Qui est une élite?
On n'a pas besoin d'un grand représentant qui parle à un peuple muet. Non, le peuple n'est pas muet et il n'a pas besoin de tribun.
Alors pour tenter de cerner le populisme, ce qu'il recouvre, ce qu'il veut dire, puisqu'il est établi que ce n'est pas une doctrine, encore moins une idéologie, mais un ensemble de méthodes d'acquisition et, nous allons le voir, d'exercice du pouvoir, pour tenter donc de mieux cerner la chose, il nous faut voyager un peu. En Italie et en Amérique du Sud, deux terres de populisme. Le populisme se généralise en ce moment, mais il a été au pouvoir, certaines de ses formes en tout cas, dans ces deux contrées sur lesquelles il faut se pencher. D'abord l'Italie avec Marianne Matar Bonucci, autrice de Totalitarisme fasciste aux éditions du CNRS. Bonjour Marianne Matar Bonucci.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler de l'Italie parce que on a un peu l'impression que le populisme, les populismes sont nés en Italie, ou en tout cas l'Italie peut faire office de showroom des populismes entre Mussolini, Berlusconi, Beppe Grillo, Matteo Salvini et Giorgia Meloni. On a une gamme de populismes très variés et on va voir avec vous d'où vient le populisme italien. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai de dire que l'Italie est un pays populiste?
Alors je crois qu'effectivement depuis les années 90, c'est-à-dire depuis le moment où le vocable d'ailleurs est rentré de nouveau dans la langue commune politico-médiatique, l'Italie est une forme de cas d'école. Showroom, c'est pas mal en effet, puisque l'Italie a montré plusieurs visages de gouvernement populiste. La difficulté quand on parle de populisme est celle de la définition, hein, puisque les chercheurs de sciences sociales ne s'accordent pas sur une définition.
Ah ben on le voit bien dans toute cette série d'émissions consacrées au populisme.
Absolument.
C'est vrai. C'est un peu pour ça qu'on vous réunit d'ailleurs et qu'on essaye de circonscrire le terme.
J'aurais tendance à penser que le populisme est à la fois un ressort politique, c'est-à-dire une façon de faire de la politique et une rhétorique. Et donc, depuis les années 90, c'est-à-dire que depuis que l'Italie a connu cette crise politique de grande ampleur, Tangentopoli, l'opération main propre, qui a consisté à renvoyer au vestiaire toute une partie de la classe politique traditionnelle qui était aux commandes depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, effectivement, le populisme a connu différentes manifestations.
Mais alors, Marianne Matar Bonucci, vous êtes spécialiste du fascisme. Est-ce que le fascisme, on va revenir un petit peu en arrière, donc avec Mussolini, bien sûr, les années 20, les années 30, et la guerre, est-ce que le fascisme italien contient aussi du populisme?
Tout à fait. Le fascisme italien a une dimension populiste, mais le populisme ne suffit pas à caractériser le fascisme, qui est plus que cela, puisqu'il y a une véritable idéologie fasciste, avec un projet de transformation de la société dans un sens totalitaire. Mais il y a une dimension populiste, au sens où on trouve bien ce ressort et cette rhétorique, puisque Mussolini en appelle au peuple contre les élites libérales. Et donc, pour conquérir le pouvoir, les fascistes, les chemises noires, se posent en représentants du peuple, prétendent dépasser les clivages de classe, alors que les expéditions punitives des chemises noires sont essentiellement au service des grands propriétaires terriens et des industriels. Mais cette rhétorique est bel et bien présente. Le quotidien fasciste, créé en 1914, s'appelle Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie. Donc c'est vraiment au cœur du premier fascisme. Mussolini prétend être le représentant du peuple, donc, et de la nation, d'autant plus que le fascisme prétend dépasser donc les contradictions de classe et inventer une espèce de troisième voie entre capitalisme et communisme.
Alors je vais vous faire écouter un extrait d'un discours de Benito Mussolini en français. C'est une adresse aux Français, à la population française, et vous allez nous la commenter. C'est en 1931, il est Premier ministre.
Dans ma qualité de Premier ministre et chef du mouvement fasciste, je répète, l'Italie ne prendra jamais l'initiative d'une guerre. L'Italie a besoin de paix dans le but de consolider les résultats concrets du régime fasciste. Le fascisme veut assurer au peuple italien, en collaboration avec les autres peuples, un avenir de prospérité et de paix.
Donc là, c'est un Mussolini notable, pacifique, convenable. Un peu plus loin dans ce discours, je ne l'ai pas retenu, mais un peu plus loin, il dit « Moi, je suis du peuple, j'ai fait la guerre de 14, j'ai souffert comme le peuple, il se prévaut de son caractère populaire pour nous rassurer. » À ce moment-là, il n'apparaît pas populiste, il apparaît tout à fait classique.
Il faut savoir que chez Mussolini, il y a une forme d'opportunisme fondamental, voire de duplicité, et qu'il est très fort pour choisir ce qu'il va dire en fonction des interlocuteurs auxquels il s'adresse. Donc ce discours est frappant parce qu'en effet, il s'adresse aux Français, donc à une démocratie avec laquelle il entend conserver des relations diplomatiques. C'est le moment où le régime cherche à s'inscrire dans la durée et donc Mussolini a tout intérêt à rassurer effectivement les partenaires diplomatiques. Ce qui est très frappant, c'est le ton. Le ton est tout à fait différent de celui qu'il emploie, effectivement, quand il harangue véritablement le peuple, hein, où là, on est dans le registre...
Oui, parce que Mussolini, c'est un tribunicien, le menton en avant...
Absolument, et ça fait partie, alors pour le coup, ce rapport au verbe, ce rapport au langage, est quelque chose qui, en général, était très présent chez les leaders populistes qui prétendent inventer donc, un lien direct avec le peuple, et qui passe d'abord par la parole. Et de ce
une parole très théâtralisée.
Tout est surjoué.
Surjoué, hein, puis très testostéroné aussi.
Absolument.
Tutto il popolo italiano, dai picchi nevosi delle Alpi.
Benito Mussolini, discours de Turin en 1939, il duce et glorifie la puissance du peuple italien.
Alle contrade siciliane e sarde, tutto il popolo italiano risponderà. Io sarò alla vostra testa.
L'univers du fascisme est un univers viriliste et évidemment, dans cet univers, les femmes n'ont pratiquement aucune place, si ce n'est celle d'être des mères. Mais donc, ce rapport au peuple, en fait, il s'est constitué en partie, il est né juste après la guerre, ce rapport au peuple à travers le verbe, grâce à un personnage dont il faut peut-être parler, qui est D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio.
Alors, après la guerre de 14.
Après la Grande Guerre, qui est ce grand poète, écrivain, italien, qui s'est emparé avec un groupe de légionnaires de la ville de Fiume, que sur l'Adriatique, que l'Italie revendiquait, qu'elle n'avait pu obtenir par les traités. Et il a commencé à instaurer ces dialogues avec la foule, que Mussolini va reprendre à son compte et qu'il va perfectionner pour mettre au point cette rhétorique donc populiste.
J'ai appris qu'un jeune député socialiste s'employait comme moi à replacer l'Italie dans le bon camp.
Texte de Gabriele D'Annunzio avec la voix de Jean Negroni.
C'est un certain Benito Mussolini. Tant pis pour son prénom espagnol. À nous deux, nous y arriverons. J'allais chaque nuit dans les gares sombres, recevoir les blessés, adorer la splendeur du sang, respirer la force et la puissance du peuple. Tous les siècles de la race se mêlaient dans les ondes de mon émotion incessante.
Donc Mussolini, Benito Mussolini, revenons à Benito Mussolini. Vous parliez de son caractère très théâtral. Physiquement, il incarne le pouvoir.
Voilà, alors Mussolini se présente en effet comme un homme du peuple, quitte à exagérer quelquefois un petit peu la misère donc, qui aurait été ses conditions de vie dans son enfance. Et surtout, il prétend, dans sa façon donc, de se poser en homme de pouvoir, il prétend incarner, être l'incarnation, l'expression du peuple. Alors, il va au contact avec la foule, hein, ça fait partie effectivement des raisons pour lesquelles il va sans doute conquérir une popularité. Hein. Tout cela est évidemment relayé, orchestré,
oui,
mis en scène
la foule
par la propagande. Et il paye de sa personne en se mettant dans la posture lui-même d'homme du peuple. Alors, torse nu quelquefois, en train de faire les moissons, sur un tracteur, en train de saisir une pioche.
Ce qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, avec Vladimir Poutine en Russie.
Enquête de politique.
Nous explorons le populisme italien avec l'historienne Marianne Matarbonucci.
Thomas Legrand sur France Inter.
Alors on va passer à une autre époque, parce que après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, évidemment, après la chute de Mussolini, il y a eu une pause dans le populisme en Italie.
Alors, il y a eu en effet une pause, et c'est assez frappant d'ailleurs de voir que la classe politique démocrate chrétienne est beaucoup moins, comment dirais-je, pittoresque, si l'on
oui,
peut dire,
elle est plus intellectuelle,
celle qui existait avant,
notable.
Et même un peu grise, hein, quelquefois, si on pense à Andreotti. Donc, de ce point de vue-là, il y a évidemment une volonté de rupture. Même si, après la guerre, se développe quand même quelque chose qui est un peu l'équivalent du poujadisme, qu'on appelle le mouvement de l'homme qualunque, qui veut dire l'homme quelconque, qui oppose toujours hein, le peuple, alors en l'occurrence les commerçants, les classes moyennes, aux élites. Car chez ces leaders populistes, il y a une conception du peuple qui est une conception très large, qui inclut souvent, bien évidemment, les classes moyennes. Mais celui qui va probablement remettre en selle véritablement le populisme et l'ériger en système de gouvernement, eh bien, c'est Silvio Berlusconi, en 1994, après cette crise qui a été provoquée donc par l'opération Main Propre et Tangentopoli. Et Berlusconi, qui lui-même doit son ascension personnelle comme homme d'affaires au lien qu'il avait avec Bettino Craxi, avec le Parti Socialiste Italien, eh bien va faire de l'antipolitique. Car l'antipolitique est au cœur hein, de cette rhétorique, justement, des leaders populistes.
Oui, c'est un autre aspect du populisme. Mais alors, à contrario avec Benito Mussolini, il ne surjoue pas l'homme du peuple. Il surjoue un autre aspect, c'est l'homme qui a réussi. J'ai réussi dans les affaires, donc je peux réussir en politique.
Oui, alors, mais il se présente quand même comme le
self-made man,
donc l'homme quand même qui, pour gagner de l'argent, a chanté sur les croisières, bon, qui vient effectivement d'une classe moyenne, mais qui a quand même bâti sa fortune, donc à la sueur de son front, en l'occurrence.
Mais là, c'est l'homme providentiel, mais cette fois-ci pas par le côté « je suis le plus fort, je suis le plus
non.
musclé, mais je suis séducteur, et puis
voilà,
je
alors,
représente une Italie aussi un peu fantasmée ».
Voilà, c'est-à-dire qu'il prétend incarner ce qu'est l'Italie de l'époque, l'image que lui se fait du peuple, d'un peuple qu'il a contribué sans doute à fabriquer avec l'empire télévisuel qui était le sien. Il veut donner une image de proximité du peuple, d'abord en se présentant comme un homme tel qu'on peut les voir à la télévision, c'est-à-dire quelqu'un qui a constamment les dents blanches, qui
Gominé.
Pratique, qui fait de la chirurgie esthétique pour avoir l'air éternellement jeune. Alors il y a bien évidemment une dimension très macho aussi qui passe par sa volonté d'assumer hein, ce rapport de prédateur aux femmes qui est le sien. Et puis le foot. N'oublions pas le foot, qui joue un rôle très important dans l'affirmation de la popularité de Mussolini, de Berlusconi, qui achète le Milan AC, hein, et qui va construire son empire politique en reprenant l'organisation qui était celle des réseaux de supporters et des clubs de foot. Et donc, à travers le foot et la télé, eh bien, il pense ressembler au peuple. Enfin, il y a une dimension d'antipolitique très importante aussi qui passe par la plaisanterie, le rire. Berlusconi, c'est l'homme qui rit de tout, qui fait des plaisanteries y compris sur des sujets dramatiques, l'antisémitisme, la Shoah, et qui donc contribue à désacraliser la politique.
Il casse les codes.
Il casse les codes, et en ce sens-là, à travers le rire, il est dans l'antipolitique.
C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.
Alors c'est une chanson de campagne de Silvio Berlusconi, Dieu merci Silvio est là, nous sommes le peuple qui aime et croit, qui veut transformer le rêve en réalité, président, nous sommes avec vous, merci pour Silvio.
Oui, c'est le degré zéro de la politique, hein, c'est-à-dire l'homme providentiel. Et il faut rappeler que certaines images de campagne sont filmées sous l'un des palais, le Palazzo della Civiltà, qui est ce bâtiment fasciste qui se trouve dans le quartier fasciste de Léour, que l'on appelle le Colisée carré. Et donc, il y a une forme de clin d'œil au régime fasciste, bien entendu. Ça a été le premier à dédiaboliser et à faire entrer donc, les fascistes au gouvernement. On lui doit en partie l'arrivée de Giorgia Meloni aujourd'hui au pouvoir.
On va revenir à évidemment un peu plus tard à Giorgia Meloni, mais Marianne Matar-Bonucci, il y a d'autres personnages qui représentent dans ce showroom du populisme en Italie une part du populisme, un aspect du populisme, Beppe Grillo. Alors ça, c'est un personnage particulier. Vous parliez tout à l'heure de l'humour qu'utilisait Silvio Berlusconi. Là, bah, c'est un humoriste qui
Absolument.
Devient politique.
Absolument. Donc, Beppe Grillo est un acteur devenu humoriste, extrêmement populaire en Italie, qui aurait été influencé par Coluche, hein, qui avait rencontré Coluche, et qui va lancer en 2009, avec l'aide d'un dénommé Casaleggio, son mouvement politique.
5 étoiles.
Les 5 étoiles, absolument. Et vraiment dans la rhétorique de l'anti-politique, puisqu'il ne cesse donc de dénoncer ce qu'il appelle la caste, et le summum dans la gesticulation et la rhétorique populiste de ce mouvement, que certains prendront, puisque c'est l'époque donc, où on a d'un côté Berlusconi et de l'autre une gauche qui a du mal à se constituer en opposition crédible, réelle à Berlusconi. Et donc certains de bonne foi penseront que effectivement Beppe Grillo et les 5 étoiles ont la volonté de mener une politique plus sociale, mais le summum sera l'organisation de ce qu'il va appeler le Vaffanculo Day, qui est une expression extrêmement...
Qu'on ne traduira pas, mais qu'on comprend.
Qu'on ne traduira pas, mais que l'on comprend, dont c'est le slogan, c'est-à-dire « on se réunit pour envoyer la classe politique au diable, si l'on veut rester poli ».
Derrière ces vociférations, une idée simple, tous pourris.
On pense parfois que les parasites, ce sont les mendiants dans les rues ou les prostituées sur les trottoirs. Eh bien non, ce qu'il faut vraiment dégager, ce sont nos parlementaires.
Aujourd'hui, à la tête du mouvement populiste, il y a cet homme, Luigi Di Maio, 31 ans seulement, le cheveu court et gominé, veste impeccable et cravate, l'exact opposé du fondateur qui, lui, refusait tout dialogue avec les partis traditionnels.
Nous ne voulons toujours pas d'alliance, de coalition, non. Mais pour faire avancer le pays, nous sommes prêts à des unions de circonstances avec ceux qui sont d'accord avec nous.
Entre ces deux moments, moins de 10 ans se sont écoulés. En 2013, le parti anti-système entre en force au Parlement. En 2016, il décroche les mairies de Turin et de Rome. Premier échec. Dans la capitale, la maire 5 étoiles ne parvient pas à résoudre les problèmes des ordures et des transports. Peu importe pour les Italiens, ils gardent confiance dans ce parti inclassable.
Alors, est-ce qu'on n'a pas là, Marianne Matar-Bonucci, est-ce qu'on n'a pas là, finalement, le populisme chimiquement pur ? On essaye de définir le populisme dans cette série d'émissions, parce qu'il n'y a quasiment pas d'idéologie. Là, ce sont des méthodes. Au début, donc, de l'aventure de Beppe Grillo, c'est un dégagisme absolu, tous pourris. Et puis après, c'est on peut s'allier avec n'importe qui. On a l'impression que Beppe Grillo est contre tout et favorable à tout ce qui est populaire. Il est écologiste quand il parle d'écologie et que ça plaît à tout le monde. Et il est contre les immigrés. Il est contre... Enfin, il prend dans chaque domaine ce qui est populaire Il mélange tout ça, ça fait quelque chose de totalement contradictoire et illisible, et oui, ça ne dure pas très longtemps finalement.
C'est en effet un discours anti-système chimiquement pur, tout à fait. Alors, jusqu'en 90, il y avait en Italie une très forte corruption, plus quand même que dans d'autres pays.
C'est-à-dire qu'il y a matière à dénoncer le système quand même.
Il y a matière à dénoncer le système. Oui. Mais bon, ça explique aussi pourquoi ces mouvements ont été si populaires, hein, oui. En particulier, justement, les 5 étoiles, hein, en matière de corruption, de lien avec la criminalité organisée, si on pense à la démocratie chrétienne, etc., etc. Oui, c'est un mouvement populiste chimiquement pur, et lorsqu'ils vont arriver au pouvoir à partir de 2018, c'est quand même assez extraordinaire, parce que Conte, donc issu de ce mouvement des 5 étoiles, va d'abord gouverner avec la Lega, puis après avec le PD.
Donc la Lega de Matteo Salvini.
La Lega de Matteo Salvini, mouvement d'extrême droite, puis le PD, mouvement de centre-gauche. Et donc là, on voit bien.
Voilà, issu du PCI.
Tout à fait, l'inconsistance. Et cela donnera d'ailleurs des arguments à Giorgia Meloni, dont on va parler dans un moment, issu du mouvement fasciste, qui va dénoncer le populisme. Précisément des 5 étoiles.
Alors on continue notre galerie du populisme varié italien avec Matteo Salvini.
Oui, Matteo Salvini est également l'un des artisans de cette méthode qui consiste à dénoncer les politiques et à se poser en représentant du peuple.
Alors au départ, c'est régional.
Au départ, oui, la Ligue est un mouvement ethno-régionaliste qui va devenir peu à peu donc un mouvement nationaliste. Et là aussi, ça donne une image assez paradoxale de la politique, puisque après avoir dénoncé le Sud, le Mezzogiorno, les méridionaux, avoir...
Oui, parce que ce qu'on remarque en parlant du populisme, souvent, ce que tous nos intervenants nous expliquent, c'est qu'il y a une définition du « eux » et du « nous ». Élite, peuple, mais eux et nous, et il faut définir le eux et nous. Et Matteo Salvini, au départ, son eux et son nous, c'était nous, le Nord, civilisé, industriel, on fait tourner la machine, et le Sud, parasite, mafieux, ils ternissent l'image de l'Italie. Son eux et son nous vont évoluer.
Le eux et le nous vont évoluer, puisque le eux, donc c'était les méridionaux, et ensuite le eux, ça devient les migrants, puisque le discours xénophobe,
encore plus au sud,
le discours xénophobe est vraiment le fond de commerce, pour le coup, de la Lega, mais comme il va l'être, du mouvement de Giorgia Meloni.
Cette semaine en quête de populisme, c'est la deuxième émission d'une série de 4 sur le sujet, et elles sont déjà toutes disponibles en podcast.
Lasciamo agli altri volentieri.
Nous laissons aux autres les peurs et les fantômes du passé. Nous construisons tous ensemble l'avenir. Ici, il n'y a pas d'extrême droite, mais la politique du bon sens. Les extrémistes sont ceux qui ont gouverné l'Europe pendant 20 ans au nom de la pauvreté et de la précarité.
Marianne Matta-Bonucci, c'est Matteo Salvini en 2019, dans une réunion d'ailleurs qui réunissait des leaders d'extrême droite de toute l'Europe, il y avait Marine Le Pen. Là, il y a un autre thème du populisme, c'est le bon sens, la majorité silencieuse, c'est pas nous les extrémistes.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est extrêmement présent, avec une vision fantasmée du peuple, hein, à chaque fois. Un peuple à qui on prête des sentiments basiques, dont on suppose qu'il n'a pas accès à la complexité. Ce qui est intéressant dans le discours aussi, c'est la dimension anti-européenne, hein, également, qui fait partie justement de ce « eux », hein, de cet autre qu'on cherche justement à stigmatiser en rassemblant le « nous ».
Alors, quelle est la différence entre Matteo Salvini et maintenant, aujourd'hui, Giorgia Meloni, qui préside aux destinées de l'Italie? Alors, ils sont alliés, mais ils sont différents. C'est une autre facette du populisme.
C'est une autre facette du populisme qui a peut-être plus de consistance idéologique que les deux cas précédents. Elle arrive après. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'électorat italien essaye successivement, hein, ces incarnations du populisme. Et donc, Meloni a conquis une popularité en grande partie au détriment de Salvini et de la Lega avec laquelle elle gouverne aujourd'hui. Alors, Meloni vient du néofascisme. Hein. Elle a cherché à mettre à distance cet héritage.
Alors justement, on a retrouvé un reportage de France 3 qui date de 1996. Giorgia Meloni est toute jeune et elle assume son néofascisme.
Giorgia a 19 ans, elle milite depuis 2 ans.
Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie.
Alors elle a quand même évolué, elle a quand même pris ses distances.
Oui, elle a effectivement pris ses distances, elle a compris que c'était une condition pour arriver au pouvoir. Depuis qu'elle est au gouvernement, là depuis quelques mois, sa politique est celle d'un gouvernement de droite, une politique
très
antisociale, conservatrice.
Atlantiste même.
Conservatrice d'extrême droite, mais elle est contrainte par l'Europe et par une tradition démocratique en Italie qui a fini par devenir profonde et réelle. Alors, je ne dis pas que les choses ne changeront pas, mais pour le moment, on en est là. Elle, quand elle fait campagne, elle a un discours très populiste. L'un des arguments récurrents, c'est d'opposer le palazzo et il popolo. Le palazzo, c'est les palais du pouvoir. Ce qui est amusant, c'est que maintenant, elle occupe le palazzo et donc, elle ne peut plus tenir ce type de discours, mais elle joue énormément sur le « eux » et « nous ». Et le fonds de commerce de Meloni, eh bien, c'est le discours anti-immigrant, sur lequel son impuissance, comme celle des autres gouvernements d'ailleurs, est manifeste. Mais en revanche, dans la propagande, c'est extrêmement présent.
Alors, sans vouloir essentialiser, est-ce qu'on peut dire que le populisme fait partie du caractère politique de l'Italie?
Je ne dirais pas les choses comme ça, parce que les Italiens sont aussi un peuple extrêmement politique, hein, politique au sens de Machiavel, de Gramsci. Depuis les années 90, on assiste à l'apparition de ces mouvements populistes, mais il n'y a pas qu'en Italie, on le voit bien. On est dans une forme de crise épocale et qu'il faut peut-être réinventer une nouvelle façon de faire de la politique qui soit entendue par les catégories populaires.
C'est justement, dire... c'est peut-être une, dans ma question qui pouvait paraître négative, il y a peut-être aussi un aspect positif. Peut-être que les Italiens, comme beaucoup de peuples européens, recherchent finalement à rétablir le lien entre l'élite et le peuple, et il faudra bien trouver les voies, et ça passe peut-être par des accidents populistes.
Oui, je pense que ces phénomènes plaident peut-être pour une réinvention de la démocratie représentative, participative, et ça donne à réfléchir, bien sûr.
Quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Nous ne dirons plus jamais nous. Nous vient de mourir là ce soir sur le coup. Nous ne serons plus jamais là pour personne. Nous ne serons plus ce truc bizarre qui déconne. Nous ne formerons jamais un grand ensemble. Nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se ressemblent.
Tout est bleu, mieux sec sur France Inter.
Enquête de politique est réalisée, mise en onde par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet. On part maintenant en Amérique du Sud avec deux historiennes. Geneviève Verdeau, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Amérique du Sud à Paris 1, auteur de L'indépendance argentine entre cité et nation, publication de la Sorbonne. Et Armelle Enders, professeure d'histoire contemporaine à Paris 8, chercheuse à l'Institut de géographie, auteur de L'histoire du Brésil aux éditions Chandaigne. Le populisme s'est développé au Brésil et en Argentine, et pour des raisons et selon des logiques différentes, au moment des indépendances de ces deux pays. Au 19e siècle. Geneviève Verdeau d'abord, à propos de l'Argentine, où il sera bien sûr question de la figure populiste Juan Perón.
C'est une modalité limite de la démocratie, le populisme. Et le fait est que les pays d'Amérique latine se caractérisent par l'avènement très précoce quand même de régimes libéraux. Enfin, tous les principes révolutionnaires sont établis lors des révolutions d'indépendance au début du XIXe siècle. Mais dans des sociétés qui restent, alors j'aime pas forcément dire traditionnelles parce qu'on tombe là dans un sort de manichéisme, mais il y a des indigènes, évidemment, il y a aussi des esclaves, il y a aussi des libres de couleur en pagaille, enfin il y a tout un peuple, mais qui participe de cette profonde remise en question. Et donc les notions, les principes révolutionnaires et les principes du libéralisme, ils sont aussi diffusés au sein de ces populations-là. La révolution a déclenché un mouvement général d'émancipation dont se saisissent les acteurs sociaux. Et les dirigeants entendent mettre un terme à ça pour stabiliser l'ordre politique. Et c'est pour ça que le populisme, il est presque consubstantiel en réalité à cet effort qui est fait pour mettre un terme à la révolution. Pour moi, l'un des premiers dirigeants qui répond aux caractéristiques du populisme, c'est Juan Manuel de Rosas à Buenos Aires. Alors lui, il arrive au pouvoir en 1829 avec un projet d'immobilisation, de refroidissement des passions politiques. Et il va le faire en instaurant un unanimisme par le haut, en s'appuyant sur le peuple de façon extrêmement, là aussi par le discours, de façon extrêmement claire, en instaurant comme ça un régime, alors qu'il appelle de restauration des lois, pour redonner la souveraineté au peuple. Alors même si on n'est pas dans du nationalisme moderne.
À base de consultations régulières.
À base de consultations régulières. En fait, quand on l'élit, quand il se représente aux élections à peu près tous les 4 ans, il refuse à chaque fois. Quand la Chambre des représentants lui confie le gouvernement, il refuse. Il refuse en disant « Non, non, moi je ne suis pas digne de ça et tout ça. » Ou alors « Vous me donnez les pleins pouvoirs. Vous me donnez les facultés exceptionnelles. » Il y a ce petit chantage à chaque fois et la Chambre des représentants finit toujours par accepter. Et à ce moment-là, il gouverne. Donc il y a l'idée que sans arrêt, il y a l'onction du peuple, il y a l'onction de la légitimité populaire d'une part et d'autre part de cette confiance qu'on accorde au leader pour amener le peuple sur la bonne voie.
Il y a l'onction du peuple, mais pourquoi on peut dire que c'est populiste ? Parce que fois, comme on revient à l'homme, il dit « je n'accepte pas » ou alors « vous me donnez tous les pouvoirs ». Et du coup, tout ce qui peut être contre-pouvoir, tout ce qui peut être corps intermédiaire...
Voilà, je dis que c'est populiste pour trois raisons.
Voilà, ouais. Disparaît d'un coup.
Je dis que c'est populiste pour ces trois raisons-là. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas de corps intermédiaire, mais surtout, il y a ce discours très particulier du « nous et eux ». Il y a cette volonté d'immobilisme et de refroidissement des passions politiques. Alors qu'en réalité, ça crée d'autres passions politiques, évidemment. Cet immobilisme, pour moi, c'est une clé de voûte de ce projet.
Qu'est-ce que vous appelez immobilisme ?
Chacun sa place.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilité sociale.
Oui, il n'y a pas de mobilité sociale, il n'y a surtout pas de pluralisme, pas de place pour le pluralisme. C'est-à-dire, il faut comprendre ce à quoi il s'oppose. Et il s'oppose, en fait, alors ce qu'il appelle le déchaînement des passions, c'est-à-dire aux luttes de factions qui ont été déchaînées par l'ordre révolutionnaire. Et le pluralisme.
Oui, c'est-à-dire que le libéralisme politique a créé une sorte d'anarchie.
C'est exactement ça l'idée. C'est
et n'a pas créé de l'ordre comme en Europe.
Voilà, c'est plein de gens qui parlent et qui ne sont pas d'accord. Ils disaient ça, on ne veut pas de constitution parce que c'est des petits cahiers qui ne servent à rien et les congrès non plus parce que c'est plein de gens qui ne sont pas d'accord. C'est quand même extraordinaire.
Quand on parle de populisme, Geneviève Verdeau, en Argentine, évidemment, on parle de Perón. Alors là, on fait un saut chronologique. En quoi Perón et l'incarnation du populisme. Le péronisme, c'est l'exemple qu'on prend toujours quand on parle de populisme.
Perón, pourquoi c'est l'incarnation du populisme ? Et j'aurais quand même une petite nuance à apporter. Prenons les choses à la base. C'est un militaire. C'est un jeune officier qui cherche lui aussi, à empêcher la révolution dans son pays, tout en étant extrêmement sensible à la montée, enfin, à la montée en puissance en fait, des nouvelles couches sociales, et en particulier des classes populaires. Et il commence à mettre en place tout un système d'encadrement de ces populations par le biais des syndicats, mais avant même de devenir le président de la République. Il est secrétaire d'État au ministère du Travail, et c'est là qu'en fait, il commence à mettre en place son œuvre. Donc Perron est populiste parce que, pour lui, l'acteur unique, c'est le peuple constitué par les travailleurs argentins. Voilà, ça c'est sa définition. Parce que c'est un homme du verbe, et il incarne le verbe au point de s'adjoindre... Enfin, Perron, il est indissociable d'Eva Perón. Hein. Les deux font vraiment système. Et donc,
ils finiront par gouverner ensemble.
Ils finiront par gouverner ensemble, et elle a un rôle important hein, dans le régime péroniste, puisqu'elle s'occupe de tous les marginaux, enfin de tous les travailleurs, mais qui ne sont pas encadrés dans les structures syndicales. Alors, il pousse à l'extrême cette rhétorique du « eux et nous », l'antipatrie. Donc, c'est un nationalisme populiste très fort. C'est un régime parfaitement d'extrême droite. Mmh. Après, il a été revendiqué par la suite, parce que c'est une longue histoire, le péronisme. En fait, là, je parle de Perón au pouvoir, c'est-à-dire 1946-1955.
Sa première période au
voilà,
pouvoir.
Voilà, sa première période au pouvoir. Mais ensuite, il est exilé et c'est pendant son exil voilà, que des mouvements de gauche se réclament de lui. Donc la dimension économique, la dimension discursive, manichéenne, le « et » le « nous », et puis on revient à cette idée d'immobilisme, et c'est pour ça que je dis que c'est un régime de droite. Au fond, c'est quoi le péronisme? C'est la distribution des dividendes accumulés par l'Argentine pendant la guerre, parce que pendant la guerre, ces pays qui étaient neutres, en fait, ont vendu à l'Europe, et surtout juste après la guerre, à vrai dire, ont vendu à l'Europe, en train de se reconstruire, des matières premières. Donc il y a une « bonanza », comme on dit, c'est-à-dire...
Une manne.
Une manne, voilà, qui est redistribuée et qui est vraiment redistribuée. Enfin, il y a une politique sociale qui est réelle. Hein, faut
mais pas... c'est une redistribution à but de fixation sociale.
Exactement. Mmh. Je cite un bref extrait de ce texte, dont vous l'aurez compris que c'est ma Bible. Les 20 vérités du justicialisme péroniste.
Alors, et... le justicialisme péroniste, voilà, c'est son
invention. C'est le nom qu'il donne à sa doctrine. Un péroniste, et l'article 7, un péroniste ne peut pas prétendre être plus que ce qu'il est réellement. Ni adopter une position inférieure à celle de son statut social.
Ah voilà, c'est la fixation.
Voilà, tout est dit, on reste à sa place.
Le justicialisme, c'est un grand mouvement, un rassemblement, comme vous diriez.
Juan Perón, en 1973, pour la télévision française.
Ce rassemblement comprend toutes les tendances, de la gauche à la droite. Tous sont de bons péronistes. Ah, évidemment, la gauche est plus hardie, elle donne plus de travail. Mais la droite n'est pas commode non plus. L'une compense l'autre. Notre but, c'est d'aller vers une démocratie intégrée où toutes ces tendances coexistent. Vous parlez toujours de libération nationale. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est très simple pour nous. Écoutez, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France a été reconstruite. Alors vous avez fait la Quatrième République avec De Gaulle pour libérer la France. Et vous l'avez libérée, oui ou non? Bon, eh bien, c'est la même libération que nous voulons ici aussi. Nous voulons expulser les impérialistes, comme l'a fait De Gaulle.
Voilà, ça c'est Juan Perón traduit par son intervieweur en 1973. Après 18 ans d'exil, il revient au pouvoir avec sa femme. Bon, il se trompe un peu, c'est pas le général de Gaulle qui a fait la 4e République, mais enfin, en tout cas, il prend l'exemple de la 4e République et de l'indépendance. Et il explique le justicialisme, donc mélange de gauche et de droite.
Oui, c'est l'article 14 nous dit tout le flou de cette doctrine. Le justicialisme, c'est une nouvelle école philosophique de la vie. Il est simple, pratique, populaire et doté de sentiments profondément chrétiens et humanitaires.
Donc
la
avec ça,
sociale
oui, tout,
de l'Église. Non, mais il y a cette dimension qui est extrêmement importante.
Alors, la doctrine sociale de l'Église, qui est Armel Enders, très présente en Amérique du Sud, au Brésil aussi.
Sur le Brésil, il y a une petite antériorité quand même de l'expérience brésilienne par rapport au péronisme. Et pas qu'une petite antériorité. Tout commence en 1930, hein, avec un épisode qui est resté dans l'historiographie comme la révolution de 1930, qui amène au pouvoir Getúlio Vargas, qui est un homme du régime qui vient de renverser, hein, un homme qui vient d'une région particulière au Brésil, qui est le sud, justement, la région du Rio de la Plata. Hein, derrière la révolution de 1930, il y a une alliance très hétéroclite, hein, qui s'appelle l'Alliance libérale, qui est en fait assez peu libérale. Et il y a l'idée d'éviter la révolution. Dans les années 1920, il y a dans les villes des mouvements de grève. Enfin, puis il y a la révolution bolchevique, il y a une montée en puissance quand même du socialisme au Brésil. Enfin, donc c'est un des aspects, éviter une révolution sociale. Ce qui anime leur vision de la question sociale, c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire c'est l'anticommunisme et aussi une forme d'anticapitalisme. Un régime qui ne soit plus une imitation, enfin des formes politiques qui ne soient plus les imitations venues d'Europe, en tout cas d'Europe de l'Ouest. Un régime, oui, qui est conforme à la société brésilienne en l'occurrence.
Enquête de politique.
Nous sommes avec Geneviève Verdot pour parler de l'Argentine et Armel Enders pour évoquer le populisme au Brésil, parce que nous sommes en quête de
populisme. Thomas Legrand sur France
Armel Enders, donc le régime de Vargas est un régime populiste en quoi ?
Alors, il y a plusieurs régimes de Vargas, c'est ça qui est compliqué avec lui. Donc, il arrive au pouvoir par un coup d'État populaire, donc transformé en révolution. D'ailleurs, les coups d'État doivent être populaires pour qu'ils fonctionnent. Mmh. Ça, c'est une dimension importante.
La révolution de palais, ça ne marche pas longtemps.
Ben non. Et ensuite, Vargas est poussé par la sortie et il fait un nouveau coup d'État, là, en instaurant une dictature qui s'appelle l'Estado Novo, qui a une inspiration. Alors, ce qui est compliqué avec l'Estado Novo, c'est que l'inspiration est vraiment, disons, proche de Salazar, c'est du national-catholicisme.
Et on n'est plus du tout dans le libéralisme.
On n'est plus tout dans le libéralisme, absolument pas. Alors oui, là, c'est fini. De toute façon, c'est fini à partir de 1930. Le libéralisme et les démocraties libérales sont complètement contestées. Alors, la différence avec l'Argentine, c'est que le gouvernement de Vargas est beaucoup plus composite. Donc, il y a de l'extrême droite. Il y a un projet, alors, nationaliste, d'indépendance économique, d'industrialisation du pays. Donc il y a à la fois une vieille droite réactionnaire et puis des forces sociales beaucoup plus, et puis des forces beaucoup plus dynamiques et une politique sociale que Vargas met en scène. Et là, il y a une personnalisation du pouvoir très forte autour de lui.
Il y a l'aspect tribunicien aussi.
Absolument. Le discours qui a été mentionné tout à l'heure, c'est un élément important. Et alors avec ça emprunte aussi à d'autres formes de. C'est pas seulement le fascisme italien a été une inspiration, mais aussi le New Deal de Roosevelt, et aussi la communication. Il y a une redémocratisation en 1945, Vargas est un petit peu écarté, et puis il revient au pouvoir en 1950 avec une constitution démocratique, pluraliste. Il est passé de l'anticommunisme à une sorte de partenariat avec les communistes. Populiste apparaît justement en 1950 dans le vocabulaire brésilien, en faisant référence à Perón, qui est décrié par toutes les forces conservatrices et libérales et conservatrices brésiliennes. Ça devient synonyme de communisme au Brésil. Populiste, c'est pour ça que on est un peu à contre-courant quand on parle de Bolsonaro. Un populiste, c'est une manière de dire subversif aux communistes pendant la guerre froide. Le coup d'État civil et militaire de 1964 est fait contre Vargas et contre le populisme. Alors, est-ce que c'est un régime populiste? Ben, pas vraiment dans sa dernière incarnation, puisque c'est un régime démocratique. Pluraliste. Justement, il est bloqué par le Congrès, il a beaucoup de mal. Mais il y a un style, il a donné sans doute une grande inspiration à son voisin de Rio de la Plata dans les années 1930 et les années 40, par sa manière de s'adresser au peuple. Il y avait des émissions qui commençaient par « Travailleurs du Brésil », c'est la marque du varguisme. Et disons, le régime de Vargas ou les incarnations de Vargas qui sont nées à l'extrême droite sont mortes, si je puis dire, au centre-gauche ou à gauche. Et donc, en 1954, il se suicide de manière très spectaculaire au pouvoir. Il a permis ainsi aussi la légalité républicaine et institutionnelle.
Alors, on enjambe les années de la période démocratique du Brésil pour en arriver à Jair Bolsonaro, populisme ou simplement extrême droite, l'ancien officier nostalgique du régime des généraux, est souvent taxé de populiste dans la presse internationale. Échantillon tout en finesse, vous allez voir, du parler bolsonarien en 2019.
La famille, c'est la base de la société. Si elle est déstructurée, la société prend la mauvaise pente. Et d'ailleurs, vous, derrière la caméra, là, vous êtes hétéro ? Faites gaffe à vos fesses, hein ?
Je refuserai que mon fils de 5 ans joue avec un copain qui a été adopté par un couple gay. Franchement, si j'accepte ça, la prochaine fois, il va revenir en me disant qu'il est tombé amoureux de son copain. Je suis Jair Bolsonaro. En 2019, nous allons mettre en pièce la réserve autochtone de Serra do Sol. Nous allons donner des armes à tous les éleveurs. Je suis certain de ne pas être le plus compétent. Mais Dieu rend compétent ce qu'il a choisi.
Donc là, on a un florilège du bolsonarisme. Voilà, il y a de la vulgarité. On casse tous les codes de la bienséance de la parole publique. Armel Enders, est-ce que ça peut être qualifié de populiste ou c'est simplement extrémiste, démago?
C'est de la vulgarité et de la démagogie qui s'adresse à des segments quand même particuliers aussi de l'électorat. Ça ne suffit pas, je trouve, à en faire un populiste.
En tout cas, il n'y a pas l'unicité du peuple. En face,
non.
C'est ça.
Alors, chez Bolsonaro, il y a un ennemi. Il y a toujours un ennemi, et l'ennemi, c'est la gauche.
Oui, c'est les progressistes et la gauche. Voilà.
C'est la gauche, c'est ce qu'on appelait de son temps de la dictature, les populistes, hein, justement. Et encore une fois, même le peuple, il en parle très peu. Voilà
donc quand dans le débat public général, on entend le populiste Bolsonaro, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est encore une idée qu'il faut casser. Est-ce qu'on peut parler, Geneviève Verdeau, si on change un peu de pays, si on sort de ce couple Brésil-Argentine, est-ce qu'on peut parler, par exemple, avec Chavez, au Venezuela, de populisme?
Ah oui, là, ça colle assez bien. Le fait qu'il soit militaire n'est pas anodin. Il y a toujours dans l'histoire, enfin toujours, depuis le début du XXe siècle en tout cas, une tradition dans les armées latino-américaines de... Le militaire est vu comme le défenseur naturel de la patrie, et par là même, une tradition... Je ne sais pas si révolutionnaire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a des mouvements de gauche à l'intérieur des armées. Donc lui fait partie de ces réformateurs militaires, issus d'une classe sociale moins favorisée que les officiers, métis aussi. Et puis après, il y a tous les critères qu'on a rappelés, hein, la force du verbe, cette stature de leader.
Tel une rockstar, Hugo Chavez entame un pas de danse avant de se lancer dans un solo de guitare imaginaire. Devant des milliers de partisans tous vêtus de rouge, à 58 ans, le président vénézuélien est de retour après avoir surmonté un cancer.
Vous savez tous que j'ai failli mourir plusieurs fois pour être fidèle au peuple vénézuélien. C'est mon chemin, je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours fidèle au peuple vénézuélien.
Chavez reste très populaire pour ses nombreux programmes sociaux financés grâce à la manne pétrolière.
Voilà, ça c'était en 2012, au moment de sa réélection.
On a exactement la recette du péronisme. Une manne qu'on redistribue, qui s'adresse en fait à des secteurs les moins privilégiés de la société.
Le populisme institutionnel en Amérique du Sud, il sera encore un peu question d'Amérique du Sud la semaine prochaine avec l'une de nos invitées, Chantal Mouffe, théoricienne et promoteur du populisme de gauche, parce que dans le troisième épisode d'Enquête de politique, eh bien, nous nous demanderons si le populisme est principalement de droite, possiblement de gauche, les deux, l'un ou l'autre, ou rien de tout ça. Vous verrez que, comme souvent, avec ce mot valise, rien n'est simple. Ce sera à vous de vous faire une idée. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.